Vous pouvez avoir sous les yeux le psaume 25. Nous continuons donc encore un peu de temps notre série sur les psaumes. Et si je devais donner un nom au psaume 25, je dirais que c'est presque. Je l'ai mis, donc c'est bien. Oui. Ouais. On va attendre qu'il revienne. Ça va?
L'économie d'énergie.
Ok, oui. Bien. Oui. Donc, le psaume 25 est un. Presque un manuel complet sur la vie chrétienne en tant que lutte sur le chemin des justes. Vous vous rappelez que le psaltier commence avec le psaume 1, et dans ce psaume, la Bible présente la vie devant vous comme deux chemins. Un chemin des méchants qui vous essaient de vous faire asseoir dans leur sentier. Et donc le chemin du juste qui rend un homme heureux, bienheureux celui qui médite jour et nuit. Donc la loi de Dieu, il est comme un arbre planté auprès des eaux, n'est-ce pas? Mais le méchant n'en est pas ainsi. Et donc les deux chemins nous sont tracés. Ce psaume va nous aider plus pour notre vie chrétienne, parce que si vous avez fait un peu de chemin, vous avez réalisé que il n'est pas aussi facile que cela, c'est-à-dire de voir qu'il y a deux chemins, de vous mettre sur le bon, et une fois que vous avez choisi le bon, ça va tout seul. Je vais revenir là-dessus. Mais donc nous allons voir que le contexte ici est un contexte de lutte, d'adversaire, d'hostilité. Et donc vous et moi, nous devons reconnaître que sur le chemin chrétien, nous sommes constamment assiégé par toutes sortes de choses intérieures et extérieures qui veulent nous dérouter de vivre une vie confiante, croyante en Dieu, paisible et joyeuse en lui, focalisée vers l'Éternel et ses voies, nous dérouter de cette voie pour nous amener dans une vie de méfiance, de vivre de nos propres moyens, nos propres buts, notre propre volonté, en pensant qu'on va arriver au vrai bonheur comme ça plutôt. Le psaume est un psaume acrostique, c'est-à-dire chaque verset du psaume 25 commence avec une autre lettre de l'alphabet hébreu. Vous voyez qu'il y a 22 versets, il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Mais ce n'est pas un psaume acrostique parfait parce que il y a 3 ou 4 fois où il n'a pas pu commencer un verset par la bonne lettre. Mais c'est comme ça parfois dans les psaumes. Vous devez tenir compte de cela parce que quand on écrit une chose comme ça, d'abord, pourquoi est-ce qu'on le fait? Probablement pour qu'on puisse mémoriser plus facilement. D'accord? Si ça commence par une lettre dans l'ordre de l'alphabet, on se souvient, oui, l'autre verset, ça doit être le C maintenant, et puis on se retrouve. Mais quand on écrit une poésie de cette manière, il faut savoir que on ne peut pas souvent donner une file de pensée exactement logique et systématique, parce qu'on doit aussi arranger ça en termes de la lettre de l'alphabet. Donc, on va pas voir ici une suite de pensées qui va logiquement du début à la fin. On va voir un jardin où il y a des fleurs magnifiques ici et là, et on va aller cueillir quelques-unes. D'accord? Non pas qu'il n'y a pas de structure, il y en a, mais c'est moins systématique. OK? Bien. Nous allons commencer à nous pencher sur cela pour voir comment est-ce que ce psaume doit nous parler. Comment est-ce que ma vie doit être différente si moi je prie et je vis le psaume 25? Parce que rappelez-vous que le psaume 25 n'est pas un texte à étudier, c'est une partie de la vie de David que David vivait il a mis par écrit ce qu'il vivait avec Dieu parce que Dieu a voulu qu'on l'imite. Ok, bien, nous y allons. Le premier point, c'est que en tant que chrétien, votre but fervent dans la vie doit être que Dieu soit... Je le dis autrement. Votre but avec Dieu doit être de prouver que les promesses de Dieu sont une réalité et pas une illusion. Une réalité et non pas, la vie chrétienne, une théorie, une idéal, un peu vague, mais qui ne se concrétise pas. Regardez avec moi dans les tout premiers versets. David commence comme ceci. « Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus, c'est le même mot que honte tout à l'heure, ceux-là seront confondus ou mis en honte qui sont infidèles sans cause. » Dans le français, souvent, le mot « honte » signifie quelque chose de différent qu'ici dans la Bible. Donc, on n'arrive pas à comprendre. Chez nous, quand quelqu'un a honte, ça veut dire qu'il est embarrassé. Qu'il a un peu l'air ridicule ou mauvais, et il est un peu embarrassé. Mais ce n'est pas le sens premier du mot « honte » dans la Bible, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Ce mot signifie principalement l'idée de déception. C'est-à-dire, David est en train de dire, « Oh Dieu, que j'ai cru que ton chemin, le chemin des justes, de croire en Dieu, peut-être vous aussi, vous pouvez dire ça, vous pouvez dire à Dieu, je pensais que ta voix, et j'ai cru que ta voix était la bonne, était la voix qui allait me mener à une vraie joie, le vrai bien dans la vie. Alors que je ne sois pas déçu à la fin pour réaliser c'était une illusion. » C'est ça que David veut dire. Il a des ennemis hostiles et même violents. Et si lui, il est le roi d'Israël, et donc si Dieu lui a fait certaines promesses dans le cadre de l'Ancien Testament, que la nation d'Israël serait bénie même de manière terrestre, ben, si des ennemis viennent faire exploser tout cela, l'alliance envers Israël était une illusion. C'est un peu ce que David veut dire dans son contexte à lui. Et nous aussi, nous devons avoir le but fervent de prouver, chers amis, que la vie chrétienne n'est pas une illusion. Le chemin, chers amis, sur lequel nous sommes, ça mène à une vraie proximité avec Dieu, une vraie connaissance de Dieu, un vrai bonheur, une vraie paix et une vraie droiture. Et nous devons, c'est vraiment ça qui est derrière tout ce que David va dire. Et je le dis parce que il est facile pour nous, sans le savoir, de tomber dans une vie chrétienne où franchement nous nous contentons d'un idéal qui ne se réalise pas. Mais c'est pas grave. On accepte ça. On a des belles paroles. On vient étudier des beaux textes. Et on ne réfléchit même pas au fait que dans ma vie, je ne vois pas la réalité de Dieu. Donc, David dit, non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas cette déception. Je veux, Seigneur, je tiens à voir tes promesses se concrétiser comme une réalité dans ma vie. Donc, on part de là, d'accord? Parce que si on ne peut pas partir de là comme le point de départ, on va nulle part. Où est-ce que vous en êtes? Et moi? Est-ce que vous priez comme ça, parfois? Est-ce que vous êtes comme David? Ou est-ce que vous n'êtes pas comme David? Est-ce que vous dites au Seigneur que je ne sois pas déçu? Pas déçu dans le sens que moi je voulais quelque chose d'égoïste et je voulais exploiter Dieu pour l'avoir. Non, mais je voulais que tes promesses à toi et ton plan à toi se réalisent, mais vraiment. Et je tiens à marcher de manière à ce que ça devienne une réalité. Nous arrivons au deuxième point. Deuxième point, c'est, et nous sommes dans le manuel hein, de la vie chrétienne, en plein bataille, ok? Nous avons vu le premier point. On tient à ce que ce soit une réalité. Deuxième point. Cherchez assidûment que Dieu vous instruise et dirige pour marcher avec lui au milieu des choses qui vous déroutent. Ok, deuxième point. Instruction. Cherchez à comprendre mieux comment y arriver. Regardez avec moi combien David en parle dans ce psaume. D'abord dans les versets 4 et 5, nous lisons ceci. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Si nous avançons au verset 8, nous lisons que l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Et si nous allons au verset 12, nous voyons que quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Maintenant, je pense que c'est justement à ce point précis que beaucoup de chrétiens défaillent. Ça semble être tellement quelque chose de banal que vous... Mais pourquoi? Tout le monde connaît, on doit chercher à comprendre mieux la voie du Seigneur. Mais je crois que souvent ce n'est pas le cas. Voilà ce que je veux dire. Un chrétien, au début, il est en train de marcher bien avec le Seigneur, et puis il arrive au cours du chemin, sur le sentier du juste, toutes sortes de difficultés. Difficultés dans sa famille, difficultés avec son conjoint, difficultés avec ses enfants, difficultés au travail, difficultés d'autres genres, peut-être dans son pays, à la persécution, difficultés intérieures avec des luttes contre certains péchés, certaines choses qui le tirent loin, il le sait bien, du chemin chrétien. Ça vous arrive? Vous avez eu ça? Et qu'est-ce qui arrive à certaines personnes? Ces personnes traversent toutes ces difficultés vraiment pénibles et complexes, vaguement comme ça. Oui, en priant, aide-moi vaguement. Mais en ne cherchant jamais à savoir, Seigneur, la vie chrétienne, quand il n'y a pas tous ces problèmes, c'est assez simple. C'est regarder le sentier et gardez-vous là-dessus. Mais là, maintenant, avec ça qui essaie de m'enlever, je dois avoir une plus grande sagesse. Comment est-ce que je marche avec ça? Avec ce conflit? Avec ce problème? Avec cette lutte qui, depuis des années, je ne remporte pas la victoire, donc il doit y avoir quelque chose que je ne sais pas. Une manière de lutter contre certains péchés, certaines difficultés, et franchement, il y a des chrétiens qui peuvent passer 20 ans sans jamais chercher, mais dire que là, moi, je vais arriver au bout de ce truc. Il doit y avoir des choses que je ne sais pas, sur comment surmonter la jalousie, ou l'inquiétude, ou la colère, ou comment arriver à pardonner quelqu'un qui m'a fait une grande injustice. Ça fait 10 ans que je ne réagis pas comme un chrétien, et je n'ai rien fait rien là-dessus. Je connais des gens qui ont des enfants qui sont devenus fils prodigues, et n'ont jamais cherché à savoir, mais ok, maintenant, comment est-ce qu'un parent doit agir dans ce cas-là? Ou bien un enfant qui devient très rebelle, très difficile, et ses parents n'ont jamais cherché même à lire un livre chrétien sur l'éducation des enfants, ou sur le problème particulier de cet enfant. Ou bien, voilà, un pasteur dans le ministère est tombé à l'eau un jour, après 20 ans de ministère fructueux. Pourquoi? Parce que au cours du route, sur le sentier, on lui a fait beaucoup d'injustices et beaucoup de calomnies. Et il n'a pas cherché à savoir comment gérer ça dans son fort intérieur. Et petit à petit, il est devenu un homme un peu plus dur, un peu plus dur, un peu moins de grâce, un peu plus amer, parce qu'on lui a fait tellement de choses mauvaises. Il n'a pas cherché, instruis-moi, montre-moi, guide-moi, comment est-ce que je réagis dans cette situation. Donc je vous donne juste quelques exemples comme ça, pour montrer que non, je crois que David est en train de faire une chose absolument essentielle ici. Maintenant, je veux le rendre concret. Mon neveu, donc fils de mon frère aîné, assiste à une université militaire aux États-Unis qui s'appelle West Point. Donc c'est l'université militaire par excellence aux États-Unis. Et au début de ses 4 ans d'études, il a dû suivre une sorte de passer des semaines dans une sorte de camp. On appelle ça en anglais boot camp. Ça veut dire camp des bottes. Et donc c'est un camp d'entraînement où on met les nouveaux arrivés vraiment à l'épreuve. Et ils doivent subir et faire des choses incroyables pour les endurcir physiquement et émotionnellement. Et une des choses que mon neveu a subi, c'est ceci. On lui a mis sur un chemin. Et il devait, un chemin un peu sinueux, et il devait arriver au bout du chemin en courant dans un certain temps qui était limité. Mais ça, c'est facile. S'il y a juste le chemin et moi, comme il semble dans le psaume 1, l'homme juste et le chemin. Le problème, c'est que au début, quand on a mis le chronomètre, un soldat a aspergé ce qu'on appelle le pepper spray. Qu'est-ce qu'on appelle ça, Pierre? C'est une... comment
Une bombe lacrymogène.
Un peu comme ça, mais c'est de la moutarde. Très, très piquante. Et les policiers utilisent ça aujourd'hui.
Le gaz de moutarde.
Oui, une sorte de gaz de moutarde qui fait extrêmement mal. Et donc, qui brûle. Et donc, on lui a mis ça dans le visage. Et donc, ses yeux étaient brûlantes, brûlantes. Et ses sinus ont commencé à se vider. Et donc, il pouvait à peine voir et il devait commencer à courir. Maintenant, il a commencé à courir un peu comme il pouvait, pleurant et hurlant. Et il est arrivé à un moment donné et boum, il y a deux militaires qui sont là et qui lui barrent le chemin. Ils ont des gants de boxe et ils sont protégés et ils commencent à taper sur mon neveu pour essayer de le battre, de l'enlever du chemin et de l'arrêter. Et lui, il doit se battre avec eux. Il doit les taper. Il doit faire ce qu'il peut pour arriver à les écarter et à continuer sur le chemin. Maintenant, vous pouvez bien comprendre que il y a une grande différence entre le psaume 1 et le psaume 25. Dans un cas, tu as un chemin et un bonhomme qui n'a qu'à regarder le chemin. Suis-le, et pas l'autre. Mais quand tu as le chemin, et les adversaires de l'extérieur, et un problème intérieur grave, il faut que tu réfléchisses vraiment. Il faut que tu saches, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire avec mes yeux, avec ce qui m'arrive? Et il a dû réfléchir vraiment sous ses pieds, pour comprendre comment il pouvait arriver au bout du chemin. Et c'est ça un peu que David est en train de faire. Il est attaqué de l'intérieur et de l'extérieur et il crie au Seigneur, montre-moi maintenant que le chemin est comme ça, comment est-ce que je m'en sors? Maintenant que j'ai ce problème, ce défi, cette difficulté dans ma vie chrétienne, comment est-ce que je m'en sors? Et c'est bien interpellant pour nous, n'est-ce pas? Est-ce que vous priez comme David? Seigneur, conduis-moi dans ta voie. Montre-moi ton chemin. Instruis-moi dans ta vérité. J'en ai besoin. Nous arrivons au troisième point. Donc, notre but, c'est que la vie chrétienne soit une réalité. Et nous demandons l'instruction constamment du Seigneur. Mais troisièmement, bâtissez votre vie avec Dieu sur une expérience constamment renouvelée de son pardon. Ou bien, autrement dit, trafiquez avant tout dans le pardon divin. Trafiquez, soyez un trafiqueur, mais dans le pardon divin. Nous lisons le verset 7, d'abord, où David dit « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions, souviens-toi de moi selon ta miséricorde. » Et ensuite, dans le verset 11, « C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. » Et nous allons un peu plus loin, dans le 18. « Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. » C'est vraiment un refrain, n'est-ce pas? Dans ce manuel de comment marcher sur le sentier des justes, il y a un refrain qui ne nous lâche jamais. Ça revient, et ça revient, et ça revient. « Seigneur, pardonne-moi. Ne regarde pas mes péchés. Renouvelle ton pardon. » Et c'est important que nous apprenions, nous aussi, à vivre de cette manière. Et là aussi, je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris, et nous tous, nous devons comprendre plus profondément ceci. La sanctification n'est pas une deuxième étape de la vie chrétienne, après le pardon et la justification. La sanctification n'est pas une deuxième bénédiction. La sanctification, c'est se nourrir de la première bénédiction, le pardon. Le chrétien qui vit en se nourrissant de la grâce pardonnante de Dieu, c'est lui qui se sanctifie, c'est lui qui change. Nous devons apprendre à avoir recours. Et chaque jour, à dire, j'ai des indications, Seigneur, aujourd'hui, que j'ai encore besoin d'un sauveur. J'ai des indications en moi. Dans la vie chrétienne, quand je regarde en arrière, j'ai l'impression que moi aussi, je dois redemander pardon pour des péchés de mon adolescence. Et je le fais souvent. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il parle des péchés de sa jeunesse? Parce qu'en allant plus loin, on voit mieux ce qu'on a fait là-bas, et on considère ça, on voit des nouvelles profondeurs de gravité de ce qu'on a fait. Et on dit, « Oh Seigneur, pardonne-moi pour ça. J'ai demandé pardon il y a longtemps, mais j'ai pas vu cet aspect, cette profondeur, cette gravité de ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Ne me regarde pas, ne me traite pas selon mes péchés. Traite-moi selon ta bonté. » C'est ça la vie chrétienne. C'est ça. Qu'est-ce que Dieu ferait avec toi s'il te traitait selon sa bonté? Alors, voilà le problème que je vois en moi et en d'autres. On fait un peu de chemin avec le Seigneur, et bien sûr, on a beaucoup d'espoir au début qu'on va être presque parfait. N'est-ce pas? Parce qu'on aime tellement le Seigneur, au moment de la conversion, on va plus pécher. Mais avec quelques années d'expérience, on voit qu'il y a des choses vraiment horribles en nous. Des tendances à quitter, carrément à abandonner Dieu, à ne pas penser à lui, ou à nous méfier de lui, à nous plaindre de lui, à être frustré avec Dieu et les voies de sa providence. Et il a fallu creuser pour savoir qu'on pensait ça, parce qu'on ne réalisait pas qu'on avait ces pensées. On était mécontent, on était méfiant. On va vers certains péchés, certaines formes d'immoralité, et on demande pardon. Et au fur et à mesure, il est facile d'arriver à se dire, mais j'ai fait ça, je me sens tellement indigne comme chrétien, que on cesse vraiment de trafiquer dans le pardon divin pour ces choses. Quand on les fait maintenant, au lieu de vraiment avouer ça, dire ça au Seigneur, demander pardon et croire dans son pardon, on pêche et puis on évite le Seigneur pendant quelques temps, quelques jours, et puis le temps passe et l'oubli nous soulage un peu sans avoir vraiment fait l'affaire avec le Seigneur vis-à-vis de nos péchés. Et ce qui nous arrive quand nous adoptons cette manière de vivre avec Dieu, c'est que nous avons une pensée profondément en nous que, bon, je sais que le Seigneur n'est pas tout à fait content de moi. Je sais que Dieu doit être un peu frustré avec moi. Et on vit le reste de sa vie comme ça. Où sont allées les gloires de Romains 5? Par la foi, nous avons été justifiés par Jésus-Christ. Et nous avons la paix avec Dieu. Où sont allées les gloires de Romains 8? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Où est la bonne nouvelle de vivre une vie complètement pardonnée, blanc, plus blanc que la neige? Ce n'est plus là. On vit comme si on est indigne et comme si Dieu tient un petit quelque chose contre nous quand même. Et de toute façon, puisque c'est comme ça, on va pas s'attendre à grande chose de lui. Et voilà la sorte de vie chrétienne qu'on a. Parce qu'on n'a pas appris à trafiquer dans le pardon divin comme David. Et à mon sens, la racine du problème est celui-ci. Nous sommes arrivés à croire dans un Dieu qui pardonne seulement les petits péchés. Ou les péchés qui ne sont pas récurrents. Et comme nous avons des péchés récurrents et grands, nous ne croyons pas que Dieu les pardonne franchement et complètement. Maintenant, regardez le verset 11 avec moi, s'il vous plaît. David a une idée, une conception complètement différente. « C'est à cause de ton nom, ce qui veut dire ton caractère, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. » C'est à cause de ta nature, qui tu es, que tu vas pardonner mon iniquité, parce qu'elle est petite, et tu es un Dieu qui arrive plus ou moins à pardonner les péchés petits. Non. Tu vas pardonner mon péché parce qu'il est grand. Et tu es un Dieu qui a une grâce immense, qui enveloppe et enterre des multitudes de transgressions, d'iniquités et de péchés. Tu es le Dieu qui pardonne David quand il tue, quand il commet l'adultère, Abraham quand il ment, Pierre quand il renie le Seigneur, et ainsi de suite. C'est toi, c'est ton caractère immense en grâce et clémence. Et nous devons, chers amis, lutter pour faire le chemin avec ce Dieu-là et trafiquer dans le pardon divin. Trafiquer dans le pardon divin. Et savoir, vous êtes pardonné honnêtement et complètement par votre Dieu. Christ n'a pas saigné pour rien, pour vous donner un demi-pardon. Pour que le Père soit un peu frustré avec toi le reste de ta vie. Oh, loin de là. Oh, loin de là. Mais c'est un point où nous devons grandir, n'est-ce pas? Est-ce que tu pries comme David? Est-ce que tu as jamais dit à Dieu, pardonne-moi à cause de qui tu es, car mon péché est grand, et tu es le Dieu qui pardonne grandement. Le quatrième point, c'est quand vous êtes éprouvé et quand vous ne l'êtes pas, contemplez la bonté de Dieu, la merveilleuse bonté de Dieu. Et louez Dieu pour cela. Contemplez de manière délibérée et consciente la bonté de Dieu et louer Dieu pour celle-ci. Nous lisons dans les versets 8 à 11 que David va arrêter ses supplications pour faire justement cela. Il fait une petite contemplation. Et donc c'est une manière de louer Dieu aussi. Il dit, l'Éternel est bon. Rappelez-vous qu'il est entouré, et dans le verset 19, il dit au Seigneur, « Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. » Il est traqué par des gens qui veulent lui ôter la vie. C'est Dieu qui permet qu'il ait cette providence dans sa vie. Et il dit, « L'Éternel est bon et droit. » C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est fou, n'est-ce pas? Tous les sentiers, ce sentier sur lequel je suis là maintenant, traqué par ces gens, c'est l'effet de la bonté de Dieu. Je me souviens d'avoir entendu un grand homme de Dieu qui était ami de A.W. Tozer. Tozer était peut-être un des hommes de Dieu le plus fameux du XXe siècle. Un grand homme de prière, un écrivain, un pasteur, un homme complètement exceptionnel. Alors, cet ami de Tozer prêchait dans une série de rencontres, de réunions spéciales dans l'église de Tozer. Et Dieu dévoilait son bras chaque soir quand cet homme prêchait, et cet homme lui-même de son tour est devenu quelqu'un de très connu dans le monde chrétien. Et on pensait qu'en arrivant à la dernière soirée de réunion, que carrément un réveil allait éclater. Tout le monde sentait qu'ils étaient vraiment au seuil de quelque chose de puissant et d'énorme. Et le sentiment d'attente était immense. Le prédicateur est arrivé et donc il a prêché le dernier soir et rien. Et à la fin de la réunion, il était toujours derrière le pupitre, évidemment un peu abattu. Et Tozer s'est approché de lui et il a dit, mais pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça ce soir? Et Tozer lui a dit, c'était la bonté de Dieu. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité, même ceux que nous ne comprenons pas. Mais nous devons contempler cela et dire ça au Seigneur souvent. Parce que je vous assure que si vous avez des problèmes à long terme, et si vous ne dites pas à haute voix, comme David l'a fait, l'Éternel est bon et droit, il est un Dieu rempli de bonté, il fait grâce, il est fidèle, il prend soin de, il est un soleil, un bouclier, il donne grâce et gloire. Et si vous ne dites pas ça au Seigneur, pour ramener vous-même votre pensée vers la bonté de Dieu, alors vous allez certainement croire le contraire au très fond de vous. Et chers amis, le fondement même d'une relation saine avec Dieu, c'est la confiance dans sa bonté envers toi. Est-ce que tu crois que Dieu est bon envers toi? En tout? Qu'il est en train d'être bon envers toi maintenant? Il est en train de le faire. Même vos épreuves ont un but plein de bonté. Plein de bonté. Dieu veut, même en nous déchirant, il nous aime tellement qu'il est prêt à aller jusque-là pour nous bénir et nous amener proche de lui. Nous apprendre à vraiment vivre avec lui dans la foi et la dépendance. Cinquièmement, comptez sur la faveur et l'amitié intime de Dieu et chercher cette expérience en marchant proche de lui. Ok, on vient de parler de notre foi dans la bonté de Dieu, et maintenant je vais aller plus loin. Parce que vous savez que quelqu'un peut être bon envers vous sans être intime avec vous, n'est-ce pas? J'ai eu des gens qui sont très bons avec moi, mais ils n'ont pas envie d'être un ami proche de moi. La bonté de Dieu, oui, mais il y a quelque chose de plus dont nous avons vraiment besoin. Et nous lisons cela dans les versets 12 à 15. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ou d'autres versions disent, le secret ou les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent et il les fera connaître son alliance. Alors, le mot qui traduit ici l'amitié, ou dans d'autres versions, secret, est un mot en hébreu qui signifie un conseil qui se réunit. On se réunit à part en conseil, et donc ce mot a donné lieu à une autre connotation qui est un peu une sorte de conseil secret entre amis. C'est l'idée que lorsque tu es vraiment très proche à quelqu'un, tu es ami intime, tu vas te confier. Il y a même une version qui traduit « L'Éternel se confie à ceux qui le craignent ». Ah, ça c'est pas mal comme traduction. Ça nous donne presque l'idée. L'Éternel a une relation tellement intime et secrète et proche avec ceux qui le craignent, qui se confient. Rappelez-vous ceci, un jour, Dieu va faire pleuvoir le feu sur Sodome et Gomorre. Et Dieu dit, dans la Trinité, ou peut-être aux anges, est-ce que nous ferons cela sans avertir Abraham? Non. Et Dieu va vers Abraham, et il lui dit, voilà ce que je vais faire. Personne d'autre ne le sait, mais à toi je le dis. Ça permet à Abraham de supplier Dieu pour Sodome et Gomorre et de sauver son neveu. Parce que Dieu a tenu conseil secret avec lui. Il y a des choses que Dieu veut te dire, mais il faut qu'il les chuchote. Et il faut que vous soyez tellement intime avec lui que personne d'autre n'entendra. C'est cette sorte de relation. J'en suis complètement sûr et convaincu. Et dans ce passage, la phrase suivante dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et il les fera connaître son alliance. » Qu'est-ce que ça veut dire? L'alliance de Dieu est sa promesse de bénédiction. Lorsque Dieu se lie pour bénir. Et ça ne veut pas dire connaître intellectuellement, mais ça veut dire que Dieu va te faire entrer dans l'expérience de l'alliance. Et l'alliance, c'est comme le mariage. C'est une union pour bénir. Et Dieu dit que cette relation secrète et amicale et proche avec lui et pour ceux qui le craignent, et il les fait entrer dans l'essence même de l'alliance. Le Nouveau Testament nous ouvre des détails sur ça, une profondeur, mais je ne peux pas vous parler de ça. Mais la Bible nous dit que en Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence, tous les secrets de comment Dieu veut nous bénir, avec des bénédictions tellement diverses et énormes, il faut vraiment s'approcher de Dieu pour les entendre et pour les croire. Pour marcher dans la vie chrétienne, il faut cette partie, il faut cette intimité. Vous ne pouvez pas, cher ami, aller loin avec un Dieu qui est là, qui est bon, qui vous conseille, qui est un peu comme le principal de votre lycée lorsque vous étiez étudiant. Il était peut-être intéressant et bon, mais un peu distant. Ça peut pas. Vous avez besoin de vivre l'intimité. Est-ce que vous priez comme ça? Est-ce que vous regardez Dieu comme David le regarde? Et ou est-ce que vous êtes différent de David? Dieu nous appelle à être comme lui. Et peut-être même à mémoriser ce verset. C'est un des versets clés de ce psaume. Nous allons terminer. Pardon, j'ai trop de feuilles là aujourd'hui. Le dernier point est très simple et très court. Si nous voulons reprendre qu'est-ce que nous allons appris, on va essayer ensemble de comprendre. Le manuel nous dit que pour marcher sur le chemin des justes, il faut avoir ce but d'avoir une vraie réalité, de ne pas se contenter d'une illusion. Deuxièmement, il faut constamment demander que le Seigneur nous instruise parce que le sentier a des difficultés, n'est-ce pas? Ensuite, il faut trafiquer dans le pardon divin. Ok? Et se savoir complètement pardonné à tout moment. Même avec les fautes qui vont venir. Dieu les sait, il les pardonne. Ok? Ensuite, au milieu de ces épreuves, il faut se rappeler et dire la bonté de Dieu. Se dire et se prêcher. Dieu est bon. Ses sentiers sont bons. Je me réjouis que c'est vrai. Et ensuite, il faut chercher cette relation intime avec Dieu et ne pas se contenter de quelque chose de distant. C'est vraiment un manuel complet, hein? Mais il y a une chose de plus à faire. Au milieu de ces épreuves et de ces difficultés, nous devons, oui, supplier Dieu honnêtement et émotionnellement au sujet de nos problèmes. Regardez avec moi les versets 16 et suivants. Nous lisons ceci. Et regardez bien combien il est honnête et combien il exprime même ses émotions. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que ne sois pas confus, voilà encore, déçu, que quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Je ne veux pas dire plus sur cela, vous pouvez regarder vous-même, mais nous voyons dans ces supplications combien il est franc. Il n'essaie pas de prier la prière qu'on devrait prier. Il dit ce qui est vraiment dans son cœur. Seigneur, regarde, ils sont vraiment méchants, ces gens. Est-ce que vous avez prié comme ça? Ces gens qui me calomnient, ils sont vraiment des gros menteurs, Seigneur. Complètement menteurs. Mais dites-le, c'est la vérité. C'est à Dieu seul que vous pouvez dire un truc comme ça, n'est-ce pas? Et parfois, on doit pouvoir dire ce qui est dans le cœur. Je crois que nos prières sont trop correctes parfois. Trop correctes. Et nous n'arrivons pas à nous libérer en disant, Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, combien de temps est-ce que tu vas attendre avant de me répondre? Mais on voit des prières comme cela. Et bien sûr, on doit rester dans la révérence du grand Dieu majestueux. Mais dans la révérence, Dieu est tellement grand qu'il peut écouter les vraies émotions que nous avons, le vrai désir. Mais remarquez un petit détail dans le dernier verset. Dans tout le psaume, il pense à lui-même, il parle de lui-même, et il prie pour lui-même, mais heureusement à la fin, il dit « Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. » Cher chrétien, quand il y a beaucoup de problèmes, il est facile de tomber dans un piège. Ne prier que pour toi-même et agir comme si tu es le seul qui est éprouvé comme ça. Une des solutions pour nos épreuves, ou au moins pour l'angoisse qui accompagne nos épreuves, c'est de s'arrêter et réaliser, il y a plein de gens qui ont des situations comme la mienne, mais pire. Délivre-leur aussi, Seigneur. Et ça met notre épreuve à sa juste mesure. Et aussi, en tournant vers Dieu pour les autres, on est en train de se mettre dans la voie de son esprit d'amour. C'est un psaume merveilleux. Nous avons beaucoup de choses à apprendre. Surtout, il faut que nous reprenions ce psaume nous-mêmes. Et il faut que nous vivions tout ce que nous y voyons. Que nous puissions le faire par la grâce de Dieu. Nous allons chanter ce psaume. Nous allons chanter le psaume 25. Et ensuite, je vous invite à un moment de prière, si vous voulez. Donc, c'est le numéro 7. Et donc, c'est ce que nous venons d'étudier, que nous allons chanter à Dieu. Le numéro 7. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. Le 7 dans le « À toi la gloire, chérie ». Ici. L'autre recueil. Oui, ah oui, tu vas le jouer là? Ok. Attends, c'est bon.
Ok, à toi.
Oui, 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 c'est ça, oui. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, en toi mon espoir est mis. Serai-je couvert de honte au gré de mes ennemis? Jamais on n'est confondu quand sur toi l'on se repose, mais le méchant est perdu, qui nuit au juste sans cause. Ô Dieu, montre-moi la voie qui seule conduit à toi. Fais que je marche avec joie dans les sentiers de ta loi. Fais que je suive toujours de ta vérité la route. Toi qui de ton prompt secours veux que jamais je ne doute. Souviens-toi de ta clémence, elle fut de tout temps. Prends pitié de ma souffrance, c'est ta grâce que j'attends. Mais loin de ton souvenir, les péchés de ma jeunesse, et daigne encore me bénir, Seigneur, selon ta promesse. Dieu fut toujours véritable, bon et juste il le sera. Et du péché misérable, la voix il redressera. Il fera tenir au bon une conduite innocente, et les comblant de ses dons, il remplira leur attente. Prions. Sentez-vous libre de prier.
C'est vrai, Seigneur, nous reconnaissons, comme il a été dit tout à l'heure, que notre cheminement sur cette terre est souvent semé de ronces et d'épines et de difficultés diverses. Mais Seigneur, c'est frappant de voir que la plupart du temps, les ennemis qui viennent de l'intérieur sont plus forts que ceux qui viennent de l'intérieur.
Mmh.
Et si par ta grâce nous arrivons à vaincre les ennemis, l'ennemi intérieur et le péché qui subsiste en nous, alors nous n'avons aucun mal à vaincre tant à l'extérieur.
Oui.
Seigneur, nous reconnaissons que c'est seulement par ta grâce et ta force que nous pouvons arriver à constamment persécuter le péché qui demeure en nous jusqu'à ce qu'il étouffe. Et c'est seulement par ta grâce, Seigneur, que nous pouvons l'écraser parce que la puissance du péché a été brisée à la croix par l'œuvre de notre Sauveur Jésus-Christ. Et maintenant, nous bénéficions de cette victoire et aucune iniquité ne peut dominer sur nous.
Mmh.
Et Seigneur, nous te sommes reconnaissants de cette victoire, Seigneur. Mais comme il nous tarde de pouvoir dire comme à notre Sauveur lui-même, le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi.
Mmh.
Ô Seigneur, que ce jour vienne où nous n'aurons, où le diable n'aura plus aucun point d'appui en nous pour nous tirer de ça et de là.
Mmh.
Mais par ta grâce, Seigneur, nous savons que cela est une réalité et que jour après jour, Seigneur, si pour peu que nous prenions la peine de vivre près de toi et en recherchant ton secours, tu nous aides à écraser Satan sous nos pieds chaque jour. Gloire te soit rendue, Seigneur, dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ, de la victoire qu'il a remportée sur le diable, sur la mort et sur le péché à la croix et par sa résurrection. Amen.
Amen.
Merci Seigneur que tu as tout accompli. Et même plus que ça, tu nous as donné ton Saint-Esprit pour être avec nous chaque jour, chaque moment. Ô Seigneur, aide-nous à lever les bras, à chercher, à marcher intimement avec toi. Donne-nous cette vision, cet espoir. Seigneur, tu nous dis que c'est toi qui œuvres en nous.
Amen. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu pardonnes et tu pardonnes. Nous sommes pécheurs. Nous pouvons dire, comme David, pardonne notre iniquité parce qu'elle est grande. Oh, merci d'avoir mis ce verset dans la Bible pour que nous puissions savoir que ton pardon s'applique à nous aussi et que nous ne sommes pas bizarres ou différents. Que nous sommes la sorte de personne qui te craint et qui marche avec toi. Béni sois-tu pour ta grande bonté. Tout est entier. Son bonté et fidélité envers ceux qui gardent ton alliance. Et merci Seigneur Jésus-Christ que tu as marché ce chemin parfaitement avant nous. Et que tu nous accompagnes intimement dans ce chemin. Tu nous as appelés tes amis. et nous cherchons vraiment cette amitié, Seigneur. Aide-nous à l'approfondir et surtout à glorifier ton nom. Nous nous remettons à toi pour cette journée du sabbat. Bénis-nous, Seigneur, rapproche-nous de toi aujourd'hui et bénis toute ton Église. Délivre lui de toutes ses détresses en revenant un jour. Amen. Bon dimanche.
Tu l'as arrêté.
Ah.